une histoire particulière. C'est l'été et je vous emmène en voyage. Pendant une heure, une histoire particulière va vous faire découvrir un lieu et son histoire. C'est la collection Été 2019 d'une histoire particulière. Alors on part. Septième semaine, septième étape. Après le manoir de Bois-Laris et la pouponnière nazie, promis, ce ne sera pas très loin. À peine une trentaine de kilomètres dans l'Oise, dans la voiture, en 50 minutes de transport, on a le temps d'écouter le podcast de la série musicale sur France Culture sur le thème « Faire tomber les murs », en particulier celle d'Élodie Maillot et Jean-Christophe Francis sur Woodstock. Et pour cause, c'était il y a 50 ans, les 15, 16 et 17 août 1969. Le producteur, Joël Rosenman, se souvient. Au-delà de l'affluence historique, Woodstock a dépassé le cadre musical et marqué l'histoire des États-Unis. C'était un événement pacifique, sans l'ombre de police ou de service d'ordre. Woodstock a tout permis, même la marijuana, malgré son interdiction légale. Woodstock fut le plus grand concert rock de tous les temps, et à la surprise générale, une invraisemblable migration. Restons dans cet esprit de musique et d'artiste, et poussons la grille du château d'Hérouville, où nous nous trouvons. Philippe Roisès et Lionel Quentin s'occupent du reste.
Les folles années du château d'Hérouville. Un documentaire de Philippe Roisès. Le château d'Hérouville, c'est une histoire de mythes et de légendes. Cette belle demeure, située à une quarantaine de kilomètres de Paris, fut construite, dit-on, sur les ruines d'un ancien château fort. Un temps devenu relais de poste, l'écrivain Georges Sand et le compositeur Frédéric Chopin s'y seraient retrouvés pour des rendez-vous amoureux. Dans les années 50, elle appartenait à la fille de la romancière Colette. C'était avant que le château devienne une histoire de musique et de cinéma.
Le parc fait, de mémoire, 1,2 hectare. Et le château, avec les deux ailes, ça doit représenter 1000 mètres carrés habitables, quelque chose comme ça.
Franck Ernoux, journaliste et auteur.
Les tables qui se mettaient ici avec 10, 15, 20, 30 convives. Et puis paf, quand on avait trop chaud, on allait dans la piscine. La piscine, elle est là. Alors ça aurait été il y a 3 ans, 4 ans maintenant, ça passe vite. Imaginez, il y avait des roseaux, il y avait des arbres qui avaient poussé dedans.
Le château, il représente quoi pour les gens aujourd'hui?
Alors ceux qui sont maintenant, qui ont 30, 40, 50 ans, l'ont pas connu puisqu'il a fermé en 85. Donc ils idéalisent un peu, ils étaient très curieux de voir comment c'était réellement, parce qu'il y a plein de légendes hein, autour de l'endroit. Derrière la piscine, il y avait un beau jardin de rocailles. Alors là, il en reste quelques vestiges. Alors tout ça, c'est Magne qui l'a planté, qui l'a conçu. J'imagine que ça devait être laissé à l'abandon. Le puits, il était là par contre, c'est pas lui qui l'a construit. En revanche, ce qu'on va voir dans le fond du château, l'espèce de tour, qu'on appelle ça en Corse, les tours génoises. C'est pas tout à fait ça, c'est pas pour faire le guet. Mais le cèdre pleureur qu'on voit là, la rocaria, j'imagine que c'est lui qui l'a planté. Là, c'est le tennis, ce qu'il en reste. Donc ça, pour en revenir à la tour génoise, ça a été construit par Michel Magne. Il n'y avait pas ça avant. Et donc c'était un peu ça, comment on va dire. Si on il n'y a pas la passerelle, mais si vous allez dedans, là vous rentrez, paf, une petite cheminée, et en haut, là, c'est un plateau. Donc officiellement, c'était pour bronzer tranquille, dans tous les états de nudité envisageables. Alors évidemment, après, il s'est passé d'autres choses, et donc c'était connu, quand il n'y avait pas le ponton, il fallait éviter de rester. Michel Magne, c'était quelqu'un d'assez atypique, en fait, assez provocateur, qui pouvait être très drôle, qui pouvait être colérique aussi, qui avait une intuition de certaines choses très, 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 très puissante, qui a toujours foncé, c'est un peu ce qui a provoqué sa perte. Quelqu'un qui était très convivial aussi, qui aimait bien voir toujours beaucoup de gens autour de lui. Toujours très optimiste, très fonceur, c'était son image. Et derrière, en fait, il y avait quelqu'un de plus tourmenté.
Né en 1930 en Normandie, Michel Magne est le cinquième enfant, particulièrement turbulent, d'une famille de huit. Ses parents, catholiques fervents, viennent d'un milieu paysan et se sont hissés dans l'échelle sociale. Michel Magne suit une formation musicale classique qui le mènera à Paris.
Michel était inconnu, on était tous des inconnus.
Serge Moreau, ami de Michel Magne.
On vivait par hasard sur la butte, moi.
La butte Montmartre.
Oui, il partageait un appartement à trois. Il y avait Delassus, je ne sais pas si vous avez vu.
Gérard Delassus.
Gérard. Et puis un grand vieux bonhomme, Jekyll. Il avait des cheveux rabattus comme ça. Et Jekyll, il faisait du piano dans une boîte de nuit. Et souvent, il y avait trop à manger. Alors le chef, dans une boîte en fer comme ça, empilait tout ce qu'il y avait entre eux, et sous un baba au rhum, il pouvait avoir un reste de rôti, puis un truc comme ça. C'était la vie de bohème. Bon, alors Michel, il a grandi, il s'est bien débrouillé, parce que arrivé à Paris, tout le monde sait qu'il faut avoir des appuis, des trucs, il avait rien. Il a tapé aux portes et tout.
Michel Magne, Radioscopie, 1970.
Je me suis trouvé sans argent pendant très longtemps à Paris, en compositeur fauché, et c'est pas drôle. Et je suis venu un peu au cinéma, disons en égoïste, pour gagner de l'argent. Mais je me suis pris au jeu. Et je me suis tellement pris au jeu que j'ai adoré ce métier-là, j'ai adoré mon métier, j'ai adoré la musique de film.
Depuis 10 ans, vous avez écrit 150 musiques de film.
Pas 150, attendez, non, pas 150, j'en ai composé 84, ce qui est déjà pas mal.
Oui, mais il faut compter les courts-métrages.
Ah oui, alors avec les courts-métrages, il y en a 60 de plus. Mais non, j'ai composé 84 grands films, dont disons 50 très importants. Et j'estime déjà que c'est pas mal, si vous saviez.
Envoyez l'image, 27 premières. Alors attention à ce que je vous ai dit. Envoyez.
Les premières musiques expérimentales de Michel Magne sont provocantes et burlesques.
Coupez la mesure, si.
Ne vous faites pas d'illusions, mon cher Magne. Votre musique, à force d'être comique, est essentiellement dramatique, en dira l'écrivain François Mauriac.
Bon, allez, on y va,
Magne touche ensuite à la chanson et à la musique de ballet. Il fait ainsi la connaissance de sa première femme, la danseuse Monique Vance.
Allez, donne un peu plus.
Puis, il devient l'un des compositeurs les plus demandés du cinéma français. La musique des Tontons Flingueurs, de Mélodie en sous-sol, des Angéliques, des Fantomas, c'est lui. Et c'est en 1962 qu'il achète le château d'Hérouville et y emménage avec Monique Vance.
Quand il faisait quelque chose, il faisait en grand. Il tenait pas qu'à de dire « j'ai invité 60 personnes ». Non, il avait des copains.
Allons nous désaltérer un peu là, venez, suivez-moi s'il vous plaît. Qui veut nous servir un petit verre là?
Oh, il n'y a plus rien à boire. Que de vin. Une petite crispée, vous voulez un petit peu d'air? Et matin, vous voulez matin un petit peu d'air? Oui, matin. On va finir d'éviter si un peu de. Mais bien sûr, vous êtes normal.
Oui, un petit peu.
Vous êtes normal.
Monique Vance, première femme de Michel Magne. 2014.
Il ne pouvait pas vivre seul, Michel. Il fallait toujours qu'il y ait quelqu'un avec lui. Un copain ou une copine, mais toujours quelqu'un. Il détestait se retrouver seul quelque part. Donc, il faisait venir un copain ou deux, comme ça, qui passait la journée avec lui. Et qui le voyait travailler, lui, il s'en occupait pas. Mais il y avait une présence.
Quand il travaillait ou composait,
voilà,
il fallait qu'il y ait quelqu'un.
Mais du coup, il n'y avait pas des profiteurs aussi qui...
Eh oui, il y en avait. Je vous citerai pas une famille qui a vécu à peu près 3 ans chez lui, à son crochet. Un autre gars célèbre dans le milieu musical qui a passé 7-8 années de week-end chez lui. Mais il avait des gens qui lui disaient « Qu'est-ce que t'es beau, qu'est-ce que t'es gentil !» Parce qu'il y en avait des chambres, hein. Il y avait peut-être une vingtaine de chambres, des chambres cellules même, puis des grandes chambres. Michel, il avait une chambre, il avait un lit de presque 2 mètres de large, et par terre, c'était fait avec de la chèvre de Sibérie, et tout le plancher était, on sortait du lit, on avait les pieds dans la fourrure.
La vie de château semble emporter Michel Magne dans un tourbillon de grandiloquence entre nouvelles fréquentations et fêtes. Sa femme, Monique Vance, dira que le succès lui est monté à la tête, qu'il avait changé. En 1968, elle le quitte brutalement. L'année suivante, un incendie détruit une aile entière du château, emportant archives personnelles et professionnelles.
De plus en plus, je me sens mal à l'aise et malheureux.
Cet incendie.
Pour l'incendie, oui. Parce que j'ai fait le fanfaron très longtemps avec cet incendie. Quand l'incendie est arrivé...
C'était quand, ça? Il y a 2 ans?
Il y a de ça 8 mois, maintenant.
Ah, ça passe vite.
Il y a de ça 8 mois. À chaque fois qu'un gros pépin dans ma vie arrive, je courbe les chines, je laisse passer le pépin, et en général, je supporte très bien les gros coups durs dans la vie. Mais là, il y a quand même un coup dur... Un coup dur qui n'est plus que matériel, parce que le matériel, bon, on retravaille, et puis on reconstruit, mais il y a des choses qui ne peuvent pas se refaire.
C'est-à-dire, l'incendie, c'était une chose, c'est un accident.
Voilà, l'incendie,
ce qui est grave, c'est tout ce qui a brûlé.
Voilà, ce qui est grave, c'est toute ma musique, toute mon œuvre entière qui a brûlé. Et ça, je vous assure que de plus en plus, maintenant, je me sens mal dans ma peau, je me sens mal à l'aise, et j'ai vraiment beaucoup de peine, surtout en y pensant, ça me fait mal au cœur. J'ai perdu toute mon œuvre entière, toute ma musique, et ça, j'arrive pas à l'avaler.
Monique s'en va du château. Et Michel vit encore quelques années tout seul au château. Enfin, tout seul, officiellement. Parce que ça, on le sait, hein, Michel était cavaleur. On va pas le cacher. Alors, donc, il a connu Marie-Claude. Elle fait de l'autostop pour rentrer chez elle. Michel s'arrête.
Marie-Claude Magne, seconde femme de Michel Magne, 2014.
La première fois que je fais de l'autostop, je vous jure que c'est vrai, c'est la première fois que je fais de l'autostop, c'est une Porsche qui s'arrête et c'est Michel Magne. Non mais vous rendez compte, le destin, c'est fou quoi. Et donc j'ai pas eu d'impression, je me suis dit bon, il est sympa, il m'amène là où je vais, c'est tout ce que j'ai eu comme impression. C'est après que j'ai eu des impressions quand je suis allée le voir dans son château. Oui, là ça m'a, il m'a beaucoup impressionné. Il m'a laissé sa carte en me disant qu'il était Michel Magne. Donc moi, je n'avais jamais entendu parler de Michel Magne. Je lui ai dit oui, bonjour, moi je m'appelle Marie-Claude Calvé. Et puis ensuite, je l'ai rappelé. J'étais en seconde, j'avais 16 ans.
Je suis un romantique et je suis un farfelu, et pourquoi pas? Mais j'ai l'impression que les véritables romantiques, les romantiques sont des farfelus, je pense, parce que ça va très bien ensemble. Ce sont deux contrariétés, ce sont deux contradictions qui s'opposent et en même temps qui se complètent. J'espère rester toute ma vie un farfelu et j'espère rester toute ma vie un romantique.
Michel, il y avait toujours ce côté festif, ce côté bonne chère, ce côté fille, ce côté...
Laurent Thibault, musicien, producteur et ingénieur du son.
Magne qui était lui-même un grand personnage, quoi, quelque part, et qui faisait des blagues tout le temps. Michel faisait
quel
des
genre
blagues. Oh, ben, par exemple, il avait une spécialité, c'est qu'il marchait, puis il fonçait dans un mur. En fait, il se mettait la main là et tout ça, et il tapait avec l'autre main sur le mur, donc ça faisait un grand bruit, et tout le monde était persuadé qu'il s'était cogné, donc il faisait comme s'il était tombé, et tout le monde était là, mon Dieu, qu'est-ce qu'il se passe, et tout. Alors, c'était des blagues. Et tout était comme ça avec Michel.
Alors là, quand on est en arrière, vous voyez, les deux ailes étaient jumelles à l'époque, même si l'aménagement intérieur est différent. Les deux ailes étaient vraiment jumelles. Et là, vous remarquerez l'aile gauche, mais maintenant qu'il y a notre droite, puisqu'on est derrière, l'aile de Michel Magne au début, toute la partie supérieure n'est pas la même. Il n'y a plus le toit comme de l'autre côté. Parce que lui s'était fait une super salle de musique là-haut, et c'est ce qui a cramé dans... Et c'est ça qui a finalement déclenché l'idée de refaire la même chose en mieux dans l'aile à côté. Puisque c'était le même espace, c'était des combles, hein, c'était donc 120, 130 mètres carrés. Sauf que là, il s'est dit, je voudrais enregistrer un petit peu plus professionnellement. De fil en aiguille, il en est venu à créer une société d'exploitation pour le château, en se disant, bon, c'est à moi, mais de temps en temps, je vais faire venir les copains qui voudront enregistrer, je les ferai payer, puis ça me paiera mes factures. Donc ça devient studio commercial. C'est ce qui s'est passé. Donc Michel Magne, il est devenu patron de studio, alors qu'à l'époque, il était au départ compositeur de musique de film, quoi. Il faut se remettre dans le contexte de l'époque, quoi. Tous les studios parisiens, c'était du béton, c'était dans l'ancien cinéma, il n'y avait pas de lumière du jour du tout, puis quand on sortait, on était en ville, quoi. C'était des studios donc, qui appartenaient aux maisons de disques, qui étaient très donc, hiérarchisés, il y avait une étiquette. Bon, les ingé-sons n'étaient plus en blouse blanche, ça c'était fini, mais ils étaient quand même en chemise et cravate au minimum. C'était des horaires bien précis, par tranche de 3 heures. Il n'y avait pas de communication directe entre l'ingénieur du son et le musicien. C'était pas possible. L'ingénieur du son devait parler à l'arrangeur et l'arrangeur allait voir le musicien. En Angleterre, bon, c'est les Beatles qui ont un peu cassé ça chez EMI. En France, ça a mis plus de temps, mais c'est ici, à Hérouville, que ça s'est fait le mieux. C'est-à-dire, c'est ici que la vitre est tombée entre l'ingénieur du son et le musicien. Et c'est là qu'il a eu cette idée c'est génial, du studio résidentiel qui n'existait pas en France. Son idée géniale, c'était de se dire, bon, bah, les musiciens, les gens, je vais les faire venir de Paris, d'accord, mais ils resteront ici et ils habiteront, ils mangeront, ils dormiront ici. C'est chez moi, ils iront dans le studio, puis après, ils resteront sur place. Quoi. Donc les gens venaient pendant une semaine, deux semaines, trois semaines, c'était l'époque où les albums, c'est juste après mai 68, hein, donc il y a toute une liberté, les artistes commençaient à en avoir marre, voulaient travailler différemment.
Le studio du château d'Hérouville ouvre en 1970. Il vivote les premiers mois, jusqu'à ce que le gratin de la variété française, les stars du rock et de la pop anglaise, y défilent pour enregistrer leurs disques. Le jeune et inventif ingénieur du son Dominique Blanc-Francard donne ses lettres de noblesse au lieu.
Il m'avait dit, quand j'aurai mon studio, qu'on fera les enregistrements, c'est toi qui s'occuperas de la nourriture, de la cuisine, tu seras le cuisinier de la maison. Il dit, ça y est, on démarre l'enregistrement, j'ai du monde, il faut que tu viennes. Parce qu'avec Michel, c'était ça, hein. C'était tout de suite, il savait pas attendre. Il était très impatient.
Alors quel genre de cuisine vous faisiez, vous? C'était quoi les plats que vous faisiez?
La cuisine française, monsieur.
Juin de cette année, le festival d'Auvers-sur-Oise avec une grande vedette annoncée sur les affiches, le Grateful Dead, et on se demandait s'ils viendraient ou pas, ils sont venus. Mais le festival, lui, a eu le sort qu'on connaît, et pendant ces 3 jours de pluie, le Grateful Dead est resté au château, au studio de Michel Magne, et au bout de 3 jours, ils avaient extrêmement envie de jouer. Ils ont joué pour les 200 personnes qui se trouvaient invitées par Michel Magne dans les jardins, avec les 5 tonnes de matériel qu'ont déployé le Dead, pour la première fois en France en concert, à Hérouville, au mois de juin 71, pour Pop 2.
Et alors le concert de Grateful Dead en 71, il a lieu où?
C'est là. C'est là, entre les deux ailes, quoi. Ils avaient joué là. Bon, vous imaginez Grateful Dead jouer ici, dans le Vexin, un petit village comme ça. Avec Michel Magne qui voulait... Ça fait beaucoup pour la réputation du château, ça.
Le Dead était venu avec toute sa communauté, ils étaient 86. Ils avaient mis tous les amplis autour de la piscine, et les amplis de toutes les couleurs, etc. Et tout. Et Dominique enregistrait tout là-haut. dans le studio. Et c'est vrai que le capitaine des pompiers dansait avec la crémière, que les Dead avaient versé de l'acide dans la nourriture et qu'ils étaient tous plus ou moins faits, comme des rats. Les filles emmenaient les pompiers dans les bosquets. À 7 heures du matin, le capitaine des pompiers retrouvait pas ses 7 pompiers. Il se baignait dans la piscine avec le casque sur la tête. Enfin, c'est quelque chose. Hein.
Sur les portes de la tendresse, je t'emmène faire un tour.
Nicoletta, elle allait à droite, à gauche. Elle était volcanique, Nicole. Hein, c'était un jour, Nicole, elle passe en vitesse comme ça. Elle me dit bonjour ou se poste. Et apparaît, tout doucement, une deux chevaux. Et elle se gare au milieu du parc, là. Et qu'est-ce que je vois? Mais écoutez, c'est la bonne sœur qui sort de sa deux chevaux avec ses cornettes. Mais on aurait dit un film de De Funès. Elle vient vers moi, puis elle me dit, c'est ici, monsieur, que on m'a demandé de faire des piqûres. Je dis, oui, c'est ici. Parce que Nicoletta, qui avait une vie explosive, elle faisait une chute de tension. Eh ben, je dis, tiens, c'est la dame qui téléphone. Et je dis à Nicole, Nicole, oui, attends. Et nanana. Alors, je tape sur l'épaule de Nicole, je dis, écoute, Nicole, arrête. Et puis, on va te faire la piqûre, viens. Elle remonte sa jupe, elle baisse sa culotte, et au milieu de ma cuisine, la bonne sœur, debout, lui a fait la piqûre. Allez-y, ma sœur, et pan ! Un coup dans le caleçon.
Sur les bords de ta peau douce, laisse-moi me promener. Chaque baiser sur ta bouche, chaque cheveu que je touche, me donne envie de t'aimer.
Il y avait un musicien, chanteur, je ne sais pas si vous l'avez connu, parce que ça passe tout le temps, Daniel Gérard. Et alors, Blanc-Fancard n'aimait pas du tout Daniel Gérard. Et un jour que Daniel Gérard était parti, je ne sais pas où, ils ont passé un fil des studios d'enregistrement, ça fait long, et c'est allé dans la chambre de Daniel Gérard. Ils ont mis le micro, je ne sais pas où, parce qu'on disait que dans le château, il y avait un fantôme. Et à minuit, 1h du matin, ils ont mis le truc en route, et puis ils ont fait... Et sur un croisillon, ils avaient mis des oripeaux, et ils secouaient les oripeaux par la fenêtre. Je peux vous dire que le lendemain matin, l'atmosphère était froide.
Il y a deux groupes qui avaient été produits par le bassiste des Rolling Stones à l'époque, qui avaient bien, ça avait bien plu. Quoi. Le studio était lancé au niveau des... Il avait une réputation, donc les Anglais, ça les dépayser aussi complètement de venir ici, en pleine campagne française, et hors de toute pression, de pression de la ville. Et Elton John, David Bowie, tout cela sortaient d'ici. Bon, ils avaient les cheveux orange éventuellement pour Bowie, ils avaient les cheveux longs, donc les... Mais... Ils n'étaient pas connus des paysans, qui leur foutaient une paix royale.
Et alors la fameuse chambre où David Bowie a séjourné, elle serait où?
La chambre de gauche, là, avec le petit balcon. Donc, vue sur le parc direct, c'était assez sympathique. Hein.
Et donc c'est la chambre où il a écrit un graffiti sur le mur, Noël Dorado.
Oui, ça doit être là. Donc quand Fleetwood Mac est venu bien plus tard, en 81, il y avait des exigences de l'artiste qui ont été satisfaites parce qu'à l'époque, les maisons de disques payaient tout, quoi. Exemple, il a fallu retapisser de mémoire la chambre en rose, en satin rose, en papier satiné rose. C'était Stevie Nicks qui voulait ça. Donc, bah, ça a été fait.
Et le graffiti de Bowie, il était resté sur le mur nu, derrière la couche de satin, de soie.
Sans doute.
On va dans cette pièce?
Oui, le salon. Donc il y a une grande cheminée.
Et elle nous raconte quoi, ces photos?
Ça, c'est des photos de d'Elton John. Alors, je ne sais pas quel album c'est, puisqu'il en a fait trois ici. Donc, il y en a une qui est dans le studio du haut. Et la photo à côté, elle, elle a été prise dans l'ancienne véranda. Enfin, elle existe toujours, mais elle est en mauvais état. La véranda, donc, qui est sur le côté de l'aile gauche. Et c'est là qu'on déployait des tables qui pouvaient faire 10 mètres, 15 mètres de long. Là, ils doivent être une vingtaine, une trentaine à table. C'est Elton John avec toute l'équipe. Et quand c'était fini, le repas, ben on repliait la table et puis on sortait le ping-pong. Et ça, c'est la photo qui est en dessous. Il y a le ping-pong, il y avait le flipper, il y avait le baby-foot.
C'était l'acoustique là. Elton John est arrivé, ils sont arrivés une dizaine, ou peut-être 12. Et je leur demande tout de suite, qu'est-ce que vous voulez manger? Et on me répond, à la française. Et vas-y. Pendant 2-3 jours, j'y vais sur la pointe des pieds. Je commençais par un rôti frites. Ça passe, après un peu plus compliqué, un peu plus compliqué, un peu plus original, en entrée des cuisses de grenouille, ça passe. J'aurais donné des escargots, ça passe. J'aurais donné encore je sais plus quoi, ça passe. Bah, puisque tout passe, j'aurais fait du gras double au chablis. What is gras double? Oh, ils ont commencé à pâlir et ils ont jeté toutes leurs assiettes dans la grande gamelle. C'est parti aux poubelles.
Qu'est-ce que vous avez pensé?
Ah, je pensais plus. Avec Elton John, je pensais plus.
Vous étiez énervé?
Ah, il m'énervait.
Marie-Claude Magne, 2012.
Comme il y avait beaucoup de monde qui occupait toutes les chambres, il y avait 57 pièces au château. Je ne sais pas combien de chambres exactement, mais... Un jour, il nous est arrivé plusieurs soirs de rentrer chez nous dans notre chambre et de trouver des couples dans notre lit. Donc, on a acheté la maison à côté.
Pour voir
la bergerie à Hérouville. Et c'est là où mon fils est né, Michael est né là. Et en 73, Michel a donné la gérance à Yves Chamberlain. Michel a plus voulu entendre parler de ça parce qu'il avait des choses à faire. Il en avait assez de passer 18 heures par jour à s'occuper du studio. Donc, nous sommes partis vivre à Saint-Paul-de-Vence. Après, je ne sais plus ce qui s'est passé au château.
Malgré sa réputation, le studio d'enregistrement a accumulé des dettes du fait d'une gestion aléatoire. En 1972, Michel Magne, lassé de s'être éloigné de son métier de compositeur, passe la main tout en restant propriétaire du château. Il laisse les fantômes d'Hérouville loin derrière, du moins le croit-il, et le studio continue désormais sans lui. Après 2 ans d'activité, la société de Michel Magne, qui gère le studio d'enregistrement du château d'Hérouville, est endettée. L'activité débordante et l'esprit festif ont peu à peu raison de la créativité musicale de Magne. Avec sa femme Marie-Claude, il part vivre dans le sud de la France, où il explore la peinture, la sculpture et le tressage de bandes magnétiques.
une nouvelle ère s'ouvre pour le château.
Michel aurait été encore à côté de moi actuellement s'il avait pris un comptable.
Serge Moreau.
Un homme sérieux et honnête, qui soit là au château tous les jours et qui surveille et qui lui dise « Michel, t'as trop dépensé cette semaine. Deux fêtes dans le mois, ça suffit. Michel, faut pas acheter ça. » Mais il n'écoutait pas.
La gestion et Michel Magne, c'est deux choses totalement différentes.
Oui, en fait, la gestion était beaucoup plus faite par un secrétaire qui s'appelait Carbone, d'ailleurs. C'est drôle pour une secrétaire.
Laurent Thibault.
Par exemple, elle me disait, il part aux Bahamas, par exemple. Et puis là, il s'aperçoit qu'il a oublié quelque chose. Et il demande de prendre l'avion pour le rejoindre, pour lui apporter le truc et de revenir. Bon, enfin, c'est des trucs... Très vite, la société a été en problème, donc...
Michel Magne. Magazine de la Côte d'Azur, 1976.
Je donne l'apparence d'être super doué, puis finalement, je suis minable. Je suis le plus mauvais comptable de la Terre. Si bien que je peux donner facilement l'apparence à des gens d'être un très bon homme d'affaires, de me défendre dans les affaires, d'être très doué, de manier l'argent, de manier ça, puis finalement, je suis lamentable.
Vous faites avoir souvent ?
Ah, tout le temps. Il suffit de me prendre par les sentiments, ou par un gentil sourire comme le vôtre,
Avec moi, vous ne risquez pas grand-chose, de toute façon.
Ou par une bonne bouteille, je me fais avoir facilement.
Et finalement, Michel a loué le studio à Chamberlain. Or, Chamberlain, c'était le patron des tuyaux d'Avoux. Donc, il passe un accord avec Chamberlain, dans lequel il lui dit, voilà, j'ai tel bilan, ça, il faut que tu payes ça, bon, ça, c'est en retard, ça, non, etc. Et Chamberlain lui promet d'autres choses aussi. Bon. Et puis, au bout de 6 mois, les deux s'aperçoivent que, en fait, les comptes de Magne sont pires que ce que il a dit à Chamberlain, mais qu'en même temps, Chamberlain, la seule idée qu'il avait, c'était de reprendre le château et puis d'en faire sa maison à lui, quoi. Et même de pomper la clientèle du château et de la passer à Davout. Et donc, au bout d'un moment, évidemment, il tombe en bisbille et un administrateur judiciaire est nommé. Je rencontre Chamberlain, on doit être en juin 1974. Et là, Chamberlain me dit, alors qu'il me connaissait comme musicien, il m'a vu vaguement chez Davout et tout ça, mais il me dit, Magne, je lui tordrai le cou comme un poulet. Je me dis, sale type. Enfin, je sais pas quoi, j'ai une mauvaise impression de lui, quoi. Qui me rend Michel sympathique, Michel avec qui j'étais fâché, moi, à ce moment-là. Pourquoi? Eh bien, en même temps, il faisait des choses qu'on trouvait géniales, et en même temps, il les faisait n'importe comment. Et il organisait des grandes fêtes au château. Il y avait toujours beaucoup de belles et charmantes personnes. Et moi, mes musiciens, ils étaient tous sauf nets avec des yeux à la Tex Avery en disant « Ouais, 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 ouais », tout ça. Et des fois, je pouvais pas bosser. Le type me disait « Mais excuse-moi, je suis cuit ». Voilà. Et en plus, ça faisait du bruit en bas. Hein. On enregistrait, donc j'ai dit à Michel « Écoute, que tu fasses la fête, moi, pourquoi pas, je veux dire. Mais en ce cas, tu me donnes des jours en plus, parce que on peut pas faire un disque et faire la fête. En plus, moi, je suis pas Crésus et quoi, comment, me fils à papa, dire ça à moi, mon père est mort avant ma naissance. Petit bourgeois, machin et tout ça. Donc, enfin bref, on s'est engueulé. Et donc, j'ai dit à Michel, OK, je finis ce disque et c'est terminé, je m'en vais. J'avais un bureau, moi, aux éditions Barclay. Et je vois Magne débarquer dans mon bureau avec Carbone, la secrétaire. Il me dit, on cherche un locataire gérant. Et moi, j'ai pensé à toi. Pourquoi tu ne reprends pas le château? Je dis, mais Michel, je veux dire, j'ai 20 000 francs devant moi, hein, que j'ai gagné en jouant de la basse sur un disque, là. Quand veux-tu que je reprenne le château d'Hérouville? Il dit, mais t'en as rien à faire. De toute façon, il y a à peu près, allez, il y a 800 millions de dettes. Donc, tu signes, tu te mets ça sur le dos, mais comme t'as rien, qu'est-ce que tu risques? Je dis, t'es fou? Il dit, oui, je suis fou, mais si t'es fou aussi, ben, ça peut marcher aussi.
Yeah.
le jour où on signe, je reviens au château et je suis tout seul. Je vais au café du coin, je me demande une qui faisait épicerie, je prends deux, trois trucs. Je me mets dans l'ancien bureau de Michel, venais au rez-de-chaussée, et l'herbe faisait un mètre de hauteur dans le parc. Des fenêtres, les vitres étaient cassées parce que les gamins du village... Et les grenouilles chantaient à loisir dans la mare à côté. Donc le soir tombe gentiment, et là j'entends quelqu'un qui se met à jouer du piano. Et il y avait dans la bergerie, là où habitait Michel, mais il était parti après la signature à Saint-Paul-de-Vence avec Marie-Claude, il y avait un Petrov russe, donc qui était dans la maison de Michel. Et moi j'entends ce piano qui commence à jouer des morceaux classiques très beaux et tout ça. Donc je dis, en fait, il y a quelqu'un qui garde la maison de Michel, putain, il joue bien. Donc la nuit passe, j'écoute le piano, qui commence à jouer des choses un peu plus modernes, des trucs pas mal, quoi. Puis le piano s'arrête, puis il reprend. Et vers 3-4 heures du matin, tant que c'est long, hein, le piano s'arrête, il n'y a plus rien, et puis ça commence à devenir pesant. Je me dis, c'est peut-être le moment d'aller se coucher. Le lendemain matin, j'entends du bruit, c'est mon associé qui me cherche partout. Et finalement, donc, je vais le retrouver, il me dit « ça va ?» Je dis « oui, ça va, tout va bien, t'as pas eu peur ?» Je dis « non, mais non, il y a le copain de Magne qui a joué du piano toute la nuit. » Copain de Magne, quel copain de Magne? Ben non, c'est pas possible. Michel est parti à Saint-Paul-de-Vence. J'ai dit oui, ben il y a bien quelqu'un. Et donc on y va. On va là-bas. Tout était fermé, bouclé, tout ça. Donc il appelle Michel. Et Michel, qui évidemment lui dit quoi, Thibaut, il a entendu le piano jouer toute la nuit. Mais c'est Chopin, c'est le fantôme de Chopin. Je vous ai toujours dit qu'il y avait le fantôme de Chopin, etc. Et tout ça. Donc on n'a jamais eu d'autre explication.
Les débuts sont timides, mais peu à peu, fort de quelques innovations techniques, le studio d'enregistrement du château se refait une réputation. Les grandes stars françaises et anglaises reviennent. Une nuit de 1976, David Bowie se présente pour produire un album d'Iggy Pop.
Brigitte, la secrétaire, m'appelle et me dit... On vient de recevoir un coup de téléphone de Corinne, qui est la secrétaire de David Bowie. Ils sont au Plaza Athénée. Ils demandent s'ils peuvent passer au château et même éventuellement rester. Je dis, bien sûr, tu me tiens au courant. Je dis oui. Et vers 3h du matin, donc, je vois arriver dans le studio, j'attendais, donc David, suivi d'Iggy Pop, et David fait des roues dans le studio, comme ça. Et il dit à Jimmy, c'est le plus grand studio de rock'n'roll du monde. Et ils ont booké le château. Dans la vie, on l'appelle Jimmy, évidemment, on l'appelle pas du tout Iggy. Et quand quelques mois plus tard, ils viennent, et personne d'autre.
Pas de musicien.
David me dit, à partir du moment où tu travailles pour moi, tu es à moi. T'es à moi. Voilà. Et donc, tout ce que je fais, tout ce que je dis, tu le dis à personne. Mais toi, si tu dis des choses qui me plaisent, si tu fais des choses qui me plaisent, n'importe quoi, si tu joues des notes qui me plaisent, c'est à moi. À partir du moment où on travaille ensemble, c'est à moi. C'est le deal. Si t'es pas d'accord, on fait pas ensemble. Si t'es d'accord, on travaille ensemble.
Moi, il a dit oui.
En plus, je suis content. On va au studio et David me dit, je vais te faire écouter deux, trois trucs. Donc, il me passe une cassette, un mini-cassette. Et on écoute des trucs où c'était une sorte de piano très saturé avec une voix derrière. Et là, donc, il essayait de reproduire avec son Baldwin qui passait dans le Marshall ce qu'on avait entendu. Puis au bout d'un moment, il disait « Répétition !» Répétition, voilà. Et après, il me faisait « Record !» Et là, j'enregistrais. Un jour, il me dit « Bon, eh ben, écoute, je vais te laisser une heure. Une heure, ou une heure, ça ira. Là, je descends. Et ben, toi, tu me mets une basse là-dessus. Pardon ? T'es bassiste ? Oui. Bon, ben, tu prends ta basse et tu mets une basse là, sur le morceau. Hein. Ça te va une heure ? Tu veux une heure et demie ? Ah non, une heure. Tu prends une heure. Et hop, il s'en va. Je bosse sur le morceau qui était Chanaga. Et le lendemain, il me dit, une heure, basse. Et comme ça. Et j'en ai fait sept basses sur le disque. Et puis plus tard, il me dit, tu connaîtrais pas un batteur Il me dit, je voudrais un bûcheron. Je voudrais un mec qui tape et qui joue comme ça. Pas une brute, il me dit, mais un mec, voilà, boum. Alors moi, évidemment, je pense à Santange, le batteur de Stivell, qui correspondait à ça. Donc j'appelle Michel et je lui dis, voilà, j'ai une séance pour toi au château. Et il me dit, c'est pour Paul McCartney. Ah, je dis, non, c'est pour David Bowie. Il me dit, d'accord, j'arrive. Le lendemain, nous, on travaille toujours avec David, les hôtesses m'appellent et me disent, Michel est arrivé. Bon, ben, fais-le monter. Un quart d'heure se passe, une demi-heure se passe, et personne. Et David, il dit, arrête ton batteur. Je dis, ben, je rappelle. Et je dis, Michel, qu'est-ce qu'il fout ? Il vient de comprendre que c'était vraiment pour David Bowie.
Du coup, il avait peur ?
Ben oui, moi, il avait pris ça pour une blague. Donc, j'explique ça à David, qui rit pas, d'ailleurs. Il me dit, bon, ben, dis-lui de monter, quoi. Bon. Donc Michel arrive, comme ça, bonjour, c'est ça. Et puis il y a David qui dit, allez, mets ta batterie, quoi, voilà. David est juste derrière avec son Baldwin, il dit, voilà, écoute. Et donc il met l'ampli et il joue son morceau. Il dit, voilà, tu peux jouer dessus ok, dit Michel, d'accord. Donc il joue pendant une minute ou deux, quoi, là, tous les deux. Et donc, David entend Michel dans le casque. Moi, j'ai pas encore fait le son de la batterie, vraiment. Quoi. Je profite de là, moi, de faire le truc. Et David qui crie, ce que je voulais pas entendre, « Record !» Donc, je passe en rouge. Et il joue. Et après, il y a David qui revient, qui écoute. Alors, quand David se met sur un fauteuil, comme ça, il se met en tailleur. C'est-à-dire, il replie les jambes sous lui. Et il est absolument droit, il a un maintien parfait. Etc. Donc on écoute. Et Michel dit, ah d'accord, ah ouais, ah non, ah oui, ah là, ouais, là je pourrais faire un truc là. Ouais, pas mal le morceau, c'est pas mal, ouais, je pourrais faire ça, tout ça. Et David me dit, qu'est-ce qu'il dit ? Je dis, non, ça, il découvre le morceau, il pense qu'il peut mieux faire. Et David me regarde et puis il fait, next !
La prochaine.
Et Michel, ça veut dire quoi ? Ça veut dire vous en faites un autre. Quoi, on en fait un autre ? Mais j'ai rien fait là. C'est quoi ? J'ai rien fait là. Tu vas pas. Si je joue avec Bowie, tu vas pas me laisser ça sur la bande. J'ai fait n'importe quoi. On y retourne. On fait 8 morceaux comme ça. On n'a jamais fait d'autres batteries avec Santange.
Bowie a gardé ses batteries.
Les batteries
très
qu'on
brutes.
A fait là sont les batteries qu'il y a sur le disque. Girl a été inspiré par une histoire d'amour du chat faite au château. Je veux dire, et ça raconte l'histoire d'une amourette que Iggy a eue avec Quellen, la femme de Jacques Higelin, qui habitait là aussi.
Dans la bergerie.
Dans la bergerie, oui. Puis l'histoire de avec Quellen et Jimmy est très jolie, très tendre et très pure. Et Jimmy chantait sa chanson, et puis de temps en temps, il voulait attraper Quellen dans ses bras, parce qu'il avait un peu bu. Et Colin lui disait chut, chut, chut. Et lui, il a improvisé, il a dit and she said me shh, shh. Ce qui est dans la chanson. She said shh.
Franck Ernoux.
Alors. Voilà, donc on est dans le Saint-Dessin, là, le studio. Comme on est dans des combles, en fait, il n'y a pas une surface parallèle. Il y a des pans coupés partout. Les poutres agissent comme des espèces de diffuseurs. Donc on a un son qui est équilibré, qui est diffus, qui est... C'est pas une cathédrale, quoi, du tout. Mais quand on met un micro et qu'on peut mettre une certaine distance... On récupère un son qui est agréable, quoi, qui est à la fois précis mais diffus. Donc c'est là qu'ils mettaient la console, les magnétophones, les enceintes, avec une vitre et un sonorisé pour qu'on ait vraiment d'un côté les musiciens, de l'autre côté les techniciens. Et donc c'est dans ce studio que se sont passés les plus grands enregistrements sur le piano de Michel Mayne, qui est toujours là aussi d'ailleurs. Un Steinway américain, je ne sais plus de quand il date celui-là.
Et qui a joué là-dessus?
Ah ben, il y a bon, Elton John, bien sûr. Puis sinon, Higelin, bien sûr, a joué sur celui-là. Pink Floyd, j'imagine, quand ils étaient là. Et puis tous les autres artistes qui ont eu besoin à un moment ou à un autre d'un piano. Donc il a récupéré un studio qui est d'un seul tenant, sur un axe, parc d'un côté, route de l'autre, avec la vue en plus sur l'église d'Hérouville, sur le côté. C'est très joli. L'église d'Hérouville qui est classée aussi. Je ne sais plus de quand elle date, celle-là. C'est là que Michel Mayne s'est marié, d'ailleurs, avec Marie-Claude, en 72. Et le grand escalier, alors ça c'est par contre ce qu'on voyait quand on arrivait à l'époque par l'entrée principale, pas l'entrée latérale qu'on a vue. Donc on a un bel escalier là, sur plusieurs révolutions là, qui dessert là, jusqu'au premier palier. Ça c'est un tuile qui est classé, qui est très très joli. Et c'est un endroit qui a une acoustique, il y a deux paliers, et c'est une acoustique vraiment remarquable. Enregistrer des voix, là c'était super. Et il y a l'anecdote célèbre des Bee Gees qui sont là et qui travaillent d'abord. Et ils ont enregistré au studio, mais ils ont aussi enregistré là. Et la femme de ménage du château, qui avait connu Michel Mayne, qui était là depuis tout le temps, Perpétua, elle voyait des gens comme ça. Elle était en train de faire son ménage, donc elle faisait le truc. Là, elle venait de la cuisine, elle faisait tout. Et elle montait l'escalier marche par marche. Puis à un moment, elle voit trois individus là, qui sont en train de chanter, s'exercer. Ça l'a pas du tout embêté, elle a commencé à laver autour d'eux. Donc imaginez les Bee Gees.
Nous, on paye les 800 millions de dettes, on les paye intégralement en 8 ans, hein, on a tout payé, donc on est devenu propriétaire de la société. Mais on n'est pas devenu propriétaire des murs. De sorte que quand, finalement, Michel a été mis en liquidation personnelle plus tard, les murs du château ont été vendus. C'est vendu aux enchères pour une bouchée de pain. Mais c'est un promoteur immobilier qui a racheté ça. Finalement, il nous a expulsés parce qu'on n'est pas... J'ai tenu bon jusqu'en 27 juillet 85 où j'étais expulsé. Aujourd'hui, des gens très courageux, dont Jean Taxi, ont racheté ce studio. Ils installent des studios... Même si aujourd'hui l'époque a complètement changé, les gens ne viendraient plus comme passer 3 mois pour enregistrer un disque.
Où est-ce qu'on est ici?
Nous sommes dans la régie B du château d'Hérouville, qui est une régie toute neuve.
Jean Taxis et Thierry Guaracino, nouveau propriétaire du château d'Hérouville.
Je crois que ça faisait partie de l'appartement de Michel Magne. Nous sommes dans l'aile sud.
Dans quel état vous l'avez trouvé, ce lieu ?
Oula. très abîmé. Donc ça se voit peut-être pas trop, mais on a fait énormément de choses depuis 3 ans. C'était vraiment c'était gros chantier.
C'était abandonné, négligé depuis 1985, avec de temps en temps et quelques locataires dans une aile. Donc on avait un petit peu envie déjà de partir plus vers le marché de niche, entre guillemets, vers la structure un peu prestigieuse, haut de gamme. Et on a eu déjà envie, déjà par curiosité,
de visiter le lieu et de voir si en 2015, parce qu'on a acheté en 2015, un studio mythique des années 70 était encore pertinent, entre guillemets, ou pas.
Mais on a été étonné de voir le nombre de gens, des anglo-saxons plutôt, qui nous ont déjà contactés. Mmh. Certains pourraient faire des projets plutôt déjà sur de longue durée. On a un Américain qui souhaite venir un mois en septembre. En plus de cela, si l'activité du studio d'enregistrement, on ne souhaite pas faire que cela dans un endroit comme ici. Je pense que c'est un endroit plus dédié à la création en général. On n'a qu'une envie, c'est de trouver des nouveaux concepts, un peu avec des rencontres entre eux. On avait un peu cette idée-là, même par rapport à des contenus audiovisuels éventuellement, des rencontres entre un musicien et un écrivain, ou on peut très bien imaginer un atelier de peinture dans le parc au beau jour. Mm-hmm. C'est un endroit qui peut être beaucoup plus qu'un studio d'enregistrement d'un point de vue technique.
On aimerait bien, par exemple, faire une émission littéraire ici, filmée.
Et Michel Magne, comment toute cette aventure finit pour lui ?
Le monde est beau, le monde est gentil.
Moi, je trouve que les premières voix, il faudrait essayer de les mixer avec beaucoup plus d'égalité, parce qu'on entend trop les secondes voix, on n'entend pas assez les premières voix. Alors on a l'impression que...
Durant les années 70, Michel Magne compose essentiellement les musiques des films de Jean Yanne, mais ne retrouve pas son prestigieux statut. En 1977, il revient habiter à Paris, obsédé par de vieux démons, le château. À la suite d'une joute judiciaire entre Chamberlain et Magne, une grande partie de ses droits d'auteur est retenue à la source. En 1979, le château est vendu aux enchères. Son couple avec Marie-Claude vacille, et déprimé, Michel Magne est un temps hospitalisé.
Un poil des secondes voix, des troisièmes voix, et il faut monter les percussions.
Michel revient donc à Paris avec sa femme et son fils, Michael, et il s'est mis à rejouer. Il a fait la musique de 3 films. Et Jean-Yann lui a dit à Michel, je suis en train de faire un film, tu vas faire la musique. C'était 2h moins le quart avant Jésus-Christ. Et un jour, Michel, il sort dans la rue, on était en train de coller les affiches de 2h moins le quart avant Jésus-Christ, et dans un coin, il voit musique 2, c'était un copain de Michel que Jean-Yann avait été chercher à côté pour le payer moins, etc. Ça a été la rupture.
France Inter, 1984.
Le compositeur de musique Michel Magne a mis fin à ses jours en avalant des comprimés dans une chambre d'hôtel. À son chevet, on a découvert le livre Suicide, mode d'emploi.
Marie-Claude Magne, 2012.
J'ai vu des médicaments circuler, mais beaucoup. Tranxène, Temesta, Valium. Donc je lui posais des questions pour savoir pourquoi il prenait ceci, pourquoi il prenait cela. Alors c'était pour se réveiller, pour s'endormir, pour pas avoir d'angoisse. Donc et il avait un médecin, Bob Guillot, c'était un ami d'enfance, un ami d'ailleurs de Serge Moreau aussi. Bob, Serge et Michel étaient souvent ensemble. Qui lui donnait tout ce qu'il voulait, quoi. Tout ce qu'il voulait.
Bon, il s'est pas du tout suicidé pour des questions d'argent. Et même, connaissant l'esprit de blague de Michel, sachant qu'il a laissé à côté de son lit le bouquin « Suicide, mode d'emploi », je me suis toujours demandé si c'était pas sa dernière blague. Si en fait, il avait fait ça en pensant pas vraiment ou aller à Jacques Thaès, quoi. On verra. Je meurs ou je meurs pas.
Est-ce la peur de vieillir qui l'a finalement emporté? Une névrose cachée par l'hyperactivité se serait-elle cristallisée dans le château d'Hérouville? Les années passent, mais l'ombre de Magne plane toujours sur ce lieu singulier, qui devint son propre fantôme et le hanta jusqu'au bout.
On n'est jamais complètement heureux, c'est pas possible, je crois pas. Les gens qui disent qu'ils sont tout le temps heureux, moi j'y crois pas. La vie est une lutte effrayante, une épreuve constante, c'est une dure épreuve, oui. Il faut mériter d'être heureux, et ça, c'est, ça me paraît bien compliqué.
Un jour, je quitterai tout. Un jour, je partirai seul, sans peine et pour presque rien. Pour un souffle de jeunesse, un jour, je quitterai tout. Pour un instant de tendresse, je quitterai tous mes biens, ma maison, mes amis et mes chiens.
C'était « Les folles années du château d'Hérouville ». Prise de son, Nicolas Mathias. Mixage, Guillaume Ledu. Archivina, Anne Brûlant. Autre archive, Michel Magne fait son cinéma, Paul Lucas, Radio Campus Paris. Coordination, Christine Bernard. Réalisation, Lionel Quentin. Un documentaire de Philippe Roisès.
Je quitterai tout, un jour je disparaîtrai, pour une poignée de soleil, pour quelques heures de sommeil. Un jour je quitterai tout, les bruits qui vous rendent fou, les nuits blanches, l'alcool flatteur, les chaînons en forme de cœur. Adieu, premier baiser du petit matin, les forêts, les sentiers lointains, les fruits mûrs à portée de la main. Bonjour, une vie nouvelle, une vie sans trace, un passé en forme de carapace, un avenir qui m'embarrasse. Un jour, je quitterai tout, je détruirai ce que j'aime, je quitterai celui que j'aime, pour être seul avec moi-même. Un jour, je briserai tout, tous ceux qui ont brûlé mon âme, tous ceux qui m'ont tiré des larmes. Un jour, je quitterai tout.
Une histoire particulière, c'est fini. Dimanche prochain, à 16h, ce sera la suite de notre voyage vers un autre lieu, une autre histoire.